L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Ariane Chemin.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Ariane Chemin.
Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui chaque samedi décortique la politique et se propose de déchiffrer modes et codes de nos sociétés en France, mais aussi à l'étranger. Justement, en ce week-end spécial Paris-New York de France Culture, nous partons explorer la capitale du pouvoir, la capitale du monde, pourrait-on dire, la ville d'Hillary Clinton et de Donald Trump, la ville de la finance, la ville du soft power, de la mode, de l'immobilier. C'est New York City of Power que nous allons questionner aujourd'hui, mon cher Vincent.
New York, ville de pouvoir au pluriel, génère un imaginaire presque aussi puissant que son influence réelle. La capitale officieuse des États-Unis semble avoir concentré sur son territoire, vous l'avez rappelé Ariane, la totalité des pouvoirs. Économique avec Wall Street, politique à travers l'ONU, siège de la gouvernance mondiale, culturel bien sûr pour l'une des villes les plus filmées au monde. Sa place au plan fédéral est ambiguë, sa rivalité avec Washington légendaire. New York est également la ville de tous les paradoxes. Symbole de la finance, elle a également été en 2011 l'épicentre de l'un des plus grands mouvements de contestation du capitalisme américain, Occupy Wall Street. Ville foncièrement démocrate, elle a été dirigée pendant près de 20 ans par deux maires républicains, Rudy Giuliani et Michael Bloomberg, avant d'élire en 2014 le démocrate Bill de Blasio. Mégalopole ouverte, multiculturelle et progressiste, elle est aussi celle des inégalités et la ville du candidat républicain Donald Trump, qui prétend incarner le New York Way of Life dans sa campagne. Si nous avons tous l'impression de connaître New York grâce aux films hollywoodiens et aux séries qui la représentent comme la ville symbolique du pouvoir, on s'attarde rarement sur son organisation politique et territoriale. Certes, la vie quotidienne dans son hôtel de ville a été popularisée par Michael J. Fox, légendaire chef de cabinet du maire de New York dans l'hilarante série Spin City. Pour autant, ses réseaux d'influence, ses acteurs et ses lieux de pouvoir sont méconnus. Alors, qui gouverne New York ? Comment définir sa place au sein de l'ensemble américain ? En quoi est-elle plus que tout la ville des représentations du pouvoir et avec quelles conséquences ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que nous aborderons aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré à New York City of Power.
Avec nous dans le studio, Pauline Peretz, vous êtes historienne, chercheuse à l'Université de Nantes, spécialiste des États-Unis et membre de la rédaction de La Vie des idées. Vous avez dirigé en 2009 le dictionnaire New York, Histoire, Promenade et Anthologie, publié dans les collections bouquins chez Robert Laffont. Et à vos côtés, Elisabeth Franck-Dumas, vous travaillez aujourd'hui au service Culture de Libération, mais vous avez étudié à l'Université de Journaliste de l'Université Columbia et vous avez longtemps travaillé pour The New York Observer, cet hebdomadaire qui explore le pouvoir new-yorkais sous toutes ses coutures.
Today, you proved once again there's no place like home.
Thank you, New York. For a New Yorker for once on the ticket, Donald Trump. What I did for New York, Donald Trump will do for America.
Thank you, New York. C'était Hillary Clinton en avril 2016 au moment de sa victoire contre Bernie Sanders. Puis Rudy Giuliani en juillet annonçant son soutien à Donald Trump. Bonjour Pauline Peretz.
Bonjour.
Alors deux candidats new-yorkais à la présidentielle américaine, c'est une première. Est-ce que c'est la consécration d'une ville ?
Oui, en quelque sorte, c'est la consécration d'un pouvoir politique, puisque New York apparaît ici comme une rampe de lancement hein, pour deux créatures politiques d'un genre bien particulier. Hillary est venue à New York en 2000. Elle a suivi son mari, Bill, qui avait ouvert sa fondation sur la 125e rue. Ils ont acheté ensemble une villa à Chappaqua pour pouvoir avoir un lieu et se porter candidat au poste de sénateur qu'elle a eu dès la première campagne. Et donc, de 2000 jusqu'au moment où elle est devenue State Secretary à Washington, elle a construit son profil politique de femme expérimentée, de femme new-yorkaise aussi. Donc, une démocrate qui se voulait libérale au sens américain, soutenant le droit des femmes, le multiculturalisme, la réduction de la pauvreté. Donc, un profil de démocrate libérale qui est très spécifique à New York.
Elisabeth Franck Dumas, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on entend Pauline Perretz nous parler de Hillary Clinton, on sait aussi que Donald Trump, c'est l'autre candidat de New York, Ariane Chemin le rappelait. On a parlé d'un modèle de femme libérale new-yorkais. En quoi Donald Trump représente un autre modèle qui est aussi New York ?
C'est difficile de parler de modèle pour quand on parle de Donald Trump. Je pense qu'en effet, il correspond à une caricature de New-Yorkais en ce sens que c'est un millionnaire. Est-ce qu'il est milliardaire désormais ? Je ne sais pas. Mais enfin, il incarne le pouvoir. Alors lui, c'était pas la finance, c'était l'immobilier. Il a sa famille, parce qu'il n'y avait pas seulement lui, son oncle, son père, ont bâti à New York. On laissait une empreinte physique sur la ville. Et ça, c'est quelque chose de très spécifiquement new-yorkais dans la gestion du pouvoir. C'est-à-dire que quand on a du pouvoir à New York, on va marquer la ville, on va laisser son nom, on va laisser son empreinte sur les lieux physiques.
Et justement, on a l'impression que New York, c'est la ville un peu de tous les pouvoirs. On le disait en introduction de cette émission. Et Donald Trump, il représente ça finalement, le pouvoir économique, financier, immobilier. Maintenant, il souhaite obtenir le pouvoir politique. C'est ça le symbole de New York, cette capacité de concentrer tous les pouvoirs.
Oui, alors le pouvoir politique, c'est compliqué. Évidemment, il y a Washington. Enfin, c'est quand même là aussi qu'il est basé. Maintenant, à New York, il y a l'argent. Il y a les donateurs pour les campagnes. Il y a énormément d'entreprises de lobbying aussi. Il y a les médias, les journaux, les télés, les maisons d'édition qui vont toutes jouer un grand rôle lors des élections. Elles l'ont déjà fait, d'ailleurs. Enfin, elles ont déjà commencé à le faire. Et c'est en cela que même si il est vrai que le pouvoir politique est quand même concentré à Washington, et ben fatalement New York joue un rôle capital.
Mais paradoxalement, en fait, Pauline les Perretz. Élections ne se jouent pas à New York, ne se jouent pas dans l'État de New York.
Dans quel sens ?
Dans le sens où tout le monde sait déjà comment va voter New York. L'État de New York est donc forcément démocrate, comme l'État l'a fait la plupart du temps aux élections présidentielles. Et compte tenu du fonctionnement du système électoral américain, donc c'est selon le principe du winner take all, donc c'est le candidat qui a remporté le plus de voix dans l'État qui remporte tout l'État. Dès lors qu'un candidat fait plus de 50%, l'État ne représente pas un enjeu pour les élections présidentielles au niveau national.
Donc c'est un peu tout le paradoxe de New York qui, au fond, est une capitale mondiale ou internationale, peut-être davantage qu'elle n'est une capitale américaine, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ?
Oui, il y a un côté pouvoir déterritorialisé. Alors le pouvoir international, il est bien sûr incarné par la présence de l'ONU à New York, dont on peut discuter de l'étendue du pouvoir, ça c'est sûr. Mais l'ONU est à New York et ça a été un combat de rude lutte à l'époque. C'est Rockefeller qui a vraiment souhaité que l'ONU soit implantée à New York pour symboliser le pouvoir international de New York. Et puis il y a bien d'autres signaux de ce pouvoir, et en particulier, évidemment, la présence de Wall Street, une des premières places financières internationales qui a provoqué donc l'installation des plus grandes banques d'investissement du monde.
Elisabeth Franck Dumas, est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre donne à New York un statut totalement différent des autres villes américaines ? Est-ce qu'il y a une exception new-yorkaise dans l'ensemble politique, économique, culturel américain ?
Oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, le reste du pays se positionnent vis-à-vis de New York. Les autres grandes villes des États-Unis se sont toujours positionnées vis-à-vis de New York. Chicago, qui pendant longtemps était la deuxième ville, d'ailleurs son surnom c'était The Second City, et tout le monde comprenait bien qu'elle passait après New York. Désormais, il y a Los Angeles, il y a la Silicon Valley, mais c'est beaucoup plus diffus. Si vous voulez, il y a souvent eu des menaces venant d'ailleurs dans le pays pour essayer de subtiliser la couronne new-yorkaise, mais aucune ville, aucun lieu n'y est jamais parvenu.
Et en même temps, on sait qu'il y a une vraie rivalité entre New York et Washington, la ville du pouvoir fédéral, la ville du pouvoir politique. Comment elle se caractérise, cette animosité, cette rivalité entre les deux villes, Pauline Peretz peut-être ?
Je ne sais pas si on peut parler tellement de rivalité, parce que c'est deux pouvoirs de nature complètement différentes. Et New York n'a aucune chance de rivaliser avec le pouvoir fédéral. Enfin, c'est pas l'enjeu. Ce que la ville de New York cherche plutôt à faire, je dirais, en termes de pouvoir politique, c'est avoir, peut-être à modifier le cours de la politique. Sur certains sujets. Prenons l'exemple de la finance. Je pense là au sénateur Chuck Schumer, qui est le second sénateur de l'État de New York, qui est quelqu'un qui est extrêmement puissant, qui est très proche de Wall Street, qu'on a appelé le sénateur de Wall Street, qui est quelqu'un qui est dans de nombreuses commissions au Congrès, notamment à la commission bancaire, et qui a par exemple beaucoup fait pour la dérégulation de la finance. Donc on voit comment, par le jeu des élus de l'État, cet État qui est si différent du reste du pays peut essayer d'avoir une influence sur la conversation politique et sur les lois qui vont être adoptées au Congrès.
Oui, et puis la finance aussi quand même. C'est-à-dire
quand
on voit le nombre de financiers qui ont dirigé ou avaient des très hauts postes chez Goldman Sachs et qui ensuite ont atterri au département du Trésor, enfin, et ont vraiment une influence capitale sur la politique économique américaine, on voit bien que même si c'est pas transparent, il y a un pouvoir qui émane de la place financière new-yorkaise.
Et justement, vous qui connaissez bien le monde de la presse et qui avez travaillé à la fois aux États-Unis et en France, souvent ce genre d'influence, la part de l'influence d'une ville, on la mesure au poste de correspondant. Est-ce que vous avez pu observer des différences entre, au fil des années, entre les correspondants que les journaux européens, par exemple, nomment à New York ou à Washington? Le correspondant de New York, il s'occupe de quoi ?
Je dirais qu'il s'occupe de tout le reste, entre guillemets. En général, c'est ça. C'est-à-dire que le correspondant à Washington va s'occuper de la politique, du pouvoir fédéral, et le correspondant à New York s'occupe de tout le reste. Donc c'est très très vaste. Il y a la finance, il y a la culture, parce qu'on n'en a pas parlé, et puis il y a tout le soft power, la pop culture aussi, qui est très importante, parce que ça, c'est une autre manière de peser sur un pays, d'orienter la pop culture. En ce moment, il y a un échange, pas seulement sur France Culture, mais dans les bibliothèques parisiennes, il y a une séquence spéciale New York, je crois. Et Françoise Mouly, qui est la directrice artistique du New Yorker, était à Paris pour parler de son travail, et notamment des unes sur lesquelles elle travaille.
Les
unes formidables sur lesquelles elle travaille. Bon, elle a fait la première couverture sur le mariage gay en 1993, ce qui avait provoqué un tollé absolument énorme. Mais on voit bien que si le New Yorker décide de faire ça, eh ben ça va suivre, ça va ruisseler, voilà. Alors dans les shows télévisés, dans les séries, dans tout ce qui est fabriqué à New York, ça va. Et petit à petit, il y a un effet boule de neige qui se situe du côté soft power, mais qui va évidemment peser sur ce qui se passe à Washington.
Donc c'est peut-être ça qui finalement caractérise New York, une ville qui inaugure des tendances. C'est ça que vous êtes en train de dire, que finalement tout ce qui se passe à New York en premier, un peu comme dans les capitales d'habitude, qui sont aussi des capitales administratives, comme Paris par exemple, eh bien, c'est ce qui va ensuite se diffuser sur le territoire américain ?
Dans certains domaines de la culture, oui. Après, à la Silicon Valley, il y a à Hollywood, évidemment, on n'en a pas encore parlé, ça existe également.
Alors maintenant, on va s'intéresser, Pauline Peretz et Elisabeth Franck Dumas, à un autre aspect du pouvoir de New York, c'est-à-dire le pouvoir à l'intérieur de New York. Et on voudrait vous faire écouter d'abord Joe Alberg, qui est directeur de la Coalition contre la faim, qui nous parle de New York et de Brooklyn dans l'émission Interception sur France Inter le 2 mars 2014, et il nous parle surtout de l'héritage laissé par le maire Michael Bloomberg en termes d'inégalité d'organisation de la ville. On l'écoute.
Il y a entre 1,3 million et 1,4 million New Yorkais qui sont dans une situation qualifiée par le gouvernement fédéral d'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas à leur faim, ou presque, qu'ils se rationnent, qu'ils font des choix contraints pour leur nourriture. Nous n'avons pas de horde d'affamés dans les rues, mais nous avons un niveau d'insécurité alimentaire plus élevé que dans n'importe quel autre pays industriel et démocratique. C'est particulièrement inacceptable à New York parce qu'il y a ici une incroyable richesse. Sur les 400 milliardaires de la liste Forbes, 53 vivent à New York. Leur fortune additionnée représente 180 milliards de dollars. C'est trois fois le budget de la ville.
Est-ce que la situation s'est aggravée pendant l'ère Bloomberg ?
Oui, la situation s'est aggravée. Bloomberg, c'est un peu Marie-Antoinette, mais sans la brioche. Sur certains sujets, comme le port d'armes, l'homosexualité, l'avortement, le soutien aux artistes, il était plutôt progressiste ou modéré. Mais sur la pauvreté, il a été terrible.
Alors, la raison pour laquelle on voulait vous faire écouter cette archive, elle touche à deux enjeux très importants de la ville de New York. Vous l'avez compris, la question des inégalités, dont on parlera dans un instant, mais avant cela, on aimerait discuter avec vous de la question du pouvoir du maire, parce qu'on voit là une voix très critique de Michael Bloomberg. Aujourd'hui, on l'a dit, c'était Bill de Blasio, le maire démocrate qui a pris le pouvoir en 2014. Mais d'abord, il faudrait comprendre à quoi il sert ce maire. L'hôtel de ville de New York dont tout le monde parle, est-ce qu'il a vraiment un pouvoir sur la politique locale ?
Oui, le maire de New York peut beaucoup, mais il doit composer avec beaucoup d'acteurs politiques locaux et aussi au niveau de l'État. Historiquement, il y a eu des conflits très forts entre la ville et l'État qui a donné à New York sa charte pour avoir le droit de se diriger conformément à des règles. En 1924, New York a obtenu ce qui s'appelle le Home Rule, c'est l'indépendance. Donc elle a le droit de se diriger selon ses propres règles. Mais New York, donc le maire reste encore dépendant pour certaines questions de l'approbation de la capitale fédérale d'Albany et donc ne peut pas tout. Donc il y a ce contrôle d'Albany sur certaines décisions. Il y a aussi des contrepoids politiques locaux. Le maire doit gouverner avec un city council, le conseil municipal, qui élit des représentants des différents boroughs. Donc
Sont combien environ ?
Ils sont une vingtaine, je crois, et qui sont élus des différents boroughs. Bill de Blasio, lui, était notamment councilman de Brooklyn. Il y a ça. Il y a également des structures de démocratie locale qui permettent des consultations, notamment dans les projets d'urbanisme. Il y a aussi des autorités administratives qui sont très puissantes, comme la MTA, Metropolitan Transit Authority, l'autorité du port aussi, qui sont des agences publiques dans lesquelles siègent des acteurs représentants de différents États, par exemple New Jersey. En gros, il y a une gouvernance très compliquée à New York et donc il est difficile de faire exactement ce qu'on veut. Et c'est ce que Bill de Blasio est en train de d'éprouver.
Ce qui est frappant, Elisabeth Franck Dumas, c'est qu'au fond, c'est peut-être la seule ville des États-Unis et la seule ville du monde dont on connaît si bien les noms. On connaît le nom des maires de New York. Et l'autre chose qui est étonnante, c'est pourquoi une ville qu'on dit plutôt démocrate élit des maires républicains ?
Voilà, Bloomberg, républicain, c'était un peu par opportunisme. Hein. Si vous vous souvenez, il était devenu membre du Parti républicain au moment de se présenter à l'élection municipale de New York, justement parce qu'il avait calculé que ce serait une manière pour lui de gagner. Il avait hésité à se présenter comme indépendant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un maire républicain ?
Il soutient Hillary Clinton, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Et donc, ça c'est particulier. Je pense que dans le cas de Bloomberg, c'est vraiment la personnalité de Bloomberg. C'est Bloomberg qui a été élu, bien plus qu'un républicain. Dans le cas de Rudy Giuliani, c'est un petit peu différent. Je crois que la situation à l'époque était telle, la criminalité, les inégalités. Il avait vraiment fait campagne là-dessus. Il avait promis de nettoyer la ville. Et je pense que c'est parce que New York était vraiment dans une situation de crise que c'est arrivé.
Une situation financière aussi particulièrement critique depuis les années 70, hein, où on pensait que New York allait être bankrupt, allait être
en faillite.
Voilà, et c'est une situation qui a duré jusqu'à la fin des années 80. Et puis à cela s'ajoute effectivement le problème de l'épidémie de crack, d'héroïne et des menaces que les New Yorkais ressentent très fortement pour la sécurité. Donc Giuliani, à ce moment-là, il se fait élire sur un programme qu'il appelle Law and order, de droit et d'ordre. Et puis, il met en œuvre une politique de police tout à fait nouvelle, qui est appelée la politique de zéro tolérance, et qui va, on parlait tout à l'heure des effets de New York sur le reste du pays. En matière de police, c'est absolument évident. C'est un type de présence de la police et de répression policière qui s'est étendue à de nombreuses autres villes américaines.
Est-ce que ce bilan, finalement, il s'est avéré positif? La ville a vraiment changé? Elle s'est améliorée en termes financiers, en termes de sécurité?
Oui, alors elle s'est améliorée en termes de sécurité. Après, il a été démontré par pas mal d'études que ce qui avait surtout joué un rôle, c'était la démographie. C'est-à-dire que la tranche d'âge statistiquement à laquelle des jeunes hommes sont amenés à devenir délinquants, on va dire ça comme ça, avait été très importante à une période, avait diminué par la suite, et que ça, c'était un facteur bien plus important que la politique des vitres cassées, parce qu'il disait que voilà, dès qu'une vitre ou une vitrine était cassée, il fallait la réparer immédiatement pour pas laisser la criminalité s'installer dans un quartier, que ça avait sans doute quand même pesé bien plus lourd dans la balance.
Et sur le plan financier, Pauline Perret, est-ce que c'est une ville qui a vu sa situation financière plus assainie? C'est une ville qui aujourd'hui est riche en termes d'autorité publique?
Oui, c'est une ville qui est très riche. Il y a eu évidemment la crise de 2008, dont New York a eu du mal à se remettre, comme le reste du pays. Mais comme le disait Elisabeth tout à l'heure, ce qui a été intéressant, c'est de voir que les financiers de New York sont arrivés à Washington pour essayer de remettre de l'ordre dans les finances du pays. Je pense en particulier à Tim Geithner, qui était le président de la banque de New York, qui est arrivé à la tête du Trésor. Avant, il y avait eu quelqu'un comme Robert Rubin qui était venu, lui, de Goldman Sachs pour diriger sous Clinton le même poste. Donc on voit comment des gens qui pensent la finance à New York peuvent, dans un second temps, essayer d'apporter des solutions nationales.
L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Ariane Chemin.
Alors justement, en parlant de finances, on voudrait vous faire écouter un extrait du film Le Loup de Wall Street, le film de Martin Scorsese, qui nous parlait justement de ce pouvoir de la finance à New York. On l'écoute.
On commence tous les appels dès 9h30 parce qu'après, nos clients sont déjà au téléphone. 3, 2, 1, on les baisse.
C'est parti. Vous voulez savoir à quoi ressemble le son de l'argent? Allez dans la salle des marchés de Wall Street. Rien à foutre, bordel de merde, putain, petite bite. J'en revenais pas de ce qui pouvait s'envoyer dans la gueule.
Putain, écoutez-moi,
j'ai été accro en quelques secondes.
Léo,
c'était comme s'injecter de l'adrénaline.
Alors, face de paix, t'as vu à combien on démarre aujourd'hui?
40.
Mais décroche ce putain de téléphone.
Oui, monsieur, pardon, monsieur. 30 000 au moins.
T'es vraiment qu'un sale enculé, Anna.
On n'en a rien à carrer de comment cette technologie fonctionne. Parce que ce qui nous branche, c'est de devenir riche.
1000. Jordan Belfort.
2000.
Vendu! On va le faire bouger, le cours.
Elisabeth Franck Dumas, vous connaissez très bien les lieux de pouvoir à New York. Alors évidemment, Wall Street en est un.
Évidemment, Wall Street en est un. Tout l'argent de New York ne vient pas forcément de la finance, mais Wall Street en est un. Et ce qui est amusant, c'est ensuite la manière dont ça se décline. C'est-à-dire que quand on a de l'argent et du pouvoir à New York, si par exemple on est un financier, eh bien cet argent, on va en faire quelque chose et on va faire une démonstration de pouvoir. On va l'exhiber. C'est-à-dire qu'on va pas se contenter d'avoir énormément d'argent. On va, par exemple, habiter dans un immeuble de pouvoir. On va faire des donations à des institutions culturelles pour montrer qu'on a du pouvoir. Et si possible, laisser son nom sur le mur, voire faire des donations à la ville de New York pour, créer un parc, créer une île, comme l'ont fait Barry Diller et Diane von Furstenberg, qui va sortir de l'eau, là, sur le Hudson. Voilà, c'est non seulement le fait qu'il y a énormément d'argent, mais c'est ce qu'on en fait et la manière dont on le montre.
Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une influence de ce pouvoir de Wall Street dans le champ public, dans le champ politique, hein? Vous rappeliez, Pauline Perret, que Charles Schumer était considéré comme le sénateur de Wall Street. Est-ce que ça signifie qu'il y a une collusion qui est très importante entre les deux pouvoirs à New York?
Ah oui, il y a une collusion importante déjà, parce que là, je crois que la plupart des banquiers de Goldman Sachs ont donné énormément d'argent à Hillary Clinton cette fois-ci. Les dernières élections, c'était peut-être plutôt vers un candidat républicain qui se tournait. Et on le disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait énormément d'ex-banquiers de Goldman Sachs qui ensuite sont allés travailler à Washington, et ça dure depuis très longtemps, ça dure depuis avant Obama, ça dure, je crois, depuis même l'ère Reagan. Il y avait un documentaire formidable, Inside Job, qui détaillait ça extrêmement bien. et qui d'ailleurs rendait responsable toute cette communauté financière new-yorkaise de la crise des subprimes de 2007-2008 à cause de la manière dont ils avaient pesé sur les lois nationales.
Lieu de pouvoir, donc Wall Street, mais il y a évidemment beaucoup d'autres endroits dans New York. La géographie de New York est intéressante, la géographie du pouvoir. Vous pensez à quel autre lieu de pouvoir à New York, Pauline Perret ?
Géographie, j'ai envie d'enchaîner sur les tours pour hyper milliardaires qui sont en train d'être construites en ce moment, hein, en bas de Central Park, sur Madison, donc des tours encore plus grandes, des tours d'un standing qu'on n'a jamais vu, qui se vendent des centaines de millions de dollars à des milliardaires étrangers la plupart du temps, qui cherchent un placement tranquille, et en même temps voilà un lieu de prestige, un lieu que l'on voit depuis la rue, que l'on voit, on a envie de dire, jusqu'à l'autre bout du monde. Enfin, moi, quand je pense à New York comme lieu de pouvoir, je me représente toujours cette couverture du New Yorker qui était très connue, qui a été faite dans les années 80, si je me souviens bien. On voit en fait le reste du monde depuis New York, donc on voit on est sur l'île de Manhattan, on voit l'Hudson, et puis après, c'est le désert. Et c'est un peu tel qu'on voit le monde, j'imagine, hein, parce que moi, j'y suis jamais montée tout en haut de ces tours, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on voit le monde et qu'on le domine.
Isabelle Franck Dumas, sur cette question. Alors, le pouvoir de l'immobilier, le pouvoir des tours.
Bon, alors après, New York, qui est une ville qui est obsédée non seulement par le pouvoir, mais par la mise en scène du pouvoir et par sa propre mise en scène comme ville de pouvoir. Tout, absolument tout devient un lieu de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a les restaurants de pouvoir, alors il y a des classifications. Chaque année, on voit alors quel est le power restaurant. D'ailleurs, le mot power est apposé à absolument tout. Il y a le power lunch, il y a le power breakfast, il y a le power couple, quand les deux personnes du couple sont connues. Alors le power restaurant, pendant très longtemps, c'était le grill du Four Seasons, qui était un endroit absolument extraordinaire au rez-de-chaussée d'une tour sur Park Avenue qui avait été construite par Miss Van Der Rohe et Philip Johnson. Et il y avait des petits plans qui sortait régulièrement avec qui est la table de qui, où ça, et évidemment, il fallait être là, et si on était dans la pièce à l'arrière, c'était la Sibérie, il fallait même pas...
Vous voulez dire qu'en fait, ces lieux-là, c'était les lieux où il fallait être, des place to be, d'une certaine manière.
Exactement, et c'est dans ces lieux-là qu'ont eu lieu les power breakfast qui ont sauvé la ville de New York au moment où elle était en faillite, et c'est dans une critique gastronomique qui avait été faite du Four Seasons dans le New York Times qu'est née l'expression power lunch. Le titre, c'était « Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui du pouvoir ?»
Mais je crois que ce restaurant a disparu, je ne me trompe pas.
Ah, oui, alors catastrophe, parce que justement, le restaurant a fermé ses portes cet été. Où est-ce que tout le monde allait aller? Alors immédiatement, les journaux se sont mis à dérouler des listes. Voilà où on peut aller, voilà où vont tel et tel. Le pouvoir, il est un petit peu descendu downtown depuis Condé Nast a bougé aussi, parce que quand même, la presse a son importance. Alors, je pourrais vous en donner d'autres noms. Il y a les vieux, les classiques, genre Michaels, Da Silvano, le 21 Club, qui est l'endroit où la socialite Nan Kempner avait été obligée d'enlever son pantalon, parce qu'à l'époque, les pantalons étaient interdits, elle était rentrée en petite culotte. Il y a tous ces vieux lieux-là, et puis il y a les nouveaux, le restaurant Jean-Georges, le restaurant dans une de ces méga-tours sur Columbus Circle, Nobu, voilà. Mais je ne sais pas s'il y en aura un capable d'avoir le même cachet que le
Mais est-ce qu'un défilé de mode ou un dîner de charité, c'est aussi un lieu de pouvoir? Est-ce que les lieux de pouvoir sont différents à New York qu'ils peuvent être à Paris? Est-ce que vous avez une idée, Pauline Perret?
Ben, je dirais certainement que la mode est un lieu de pouvoir. D'ailleurs, il y a une section du New York Times tous les week-ends, la fashion section. On voit en gros quel est le look du moment, des photos alors d'inconnus dans la rue. Mais ces femmes en général et ces hommes sont habillés de telle façon qu'on a quand même du mal à se dire que c'est just anyone. On a l'impression que tout le monde dans cette ville a un pouvoir d'achat considérable qui permet de devenir un trendsetter au moins d'une semaine.
Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors moi, les dîners de gala de charité, très certainement, parce qu'en fait, toutes les institutions culturelles de New York ont des conseils d'administration où siègent des civils, des gens qui ne font pas partie, qui ne travaillent pas pour tel musée, tel opéra, tel centre culturel. Et alors ça, pareil, c'est une vraie démonstration de pouvoir. Il y a une hiérarchie qui est une hiérarchie bien connue. Par exemple, le board, parce que ces conseils d'administration s'appellent des boards, sur lequel il faut être, le plus puissant de New York, c'est celui du MoMA, par exemple. Voilà, où on retrouve la famille Lauder, entre autres, des financiers. Et puis, après, on descend la chaîne et tout. Je dirais que pour les gens qui s'intéressent à cette question, il est très facile de savoir, de connaître exactement la hiérarchie de tous ces boards, de prestige, du plus prestigieux jusqu'au moins prestigieux. Et quand on arrive à New York et qu'on a, par exemple, énormément d'argent, il est très facile de s'y retrouver, de savoir où il faut aller, sur quel board est-ce qu'on pourrait s'acheter une place en donnant pas mal d'argent.
Alors justement, Pauline Perretz, quand on parle de cette cartographie du pouvoir, les lieux où les gens ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, on est obligé aussi de parler des lieux qui n'ont pas de pouvoir et des gens qui sont les dominés de ce système. Quand on réfléchit à l'organisation un peu spatiale de New York, on avait le sentiment que, bon, Manhattan a toujours été un lieu de richesse et en même temps, on avait le sentiment qu'il y a une vingtaine d'années, peut-être, Brooklyn était une ville intermédiaire. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Alors, quels sont les lieux, finalement, dans lesquels se retrouvent ces fameux dominés qui étaient peut-être hier dans le Bronx ou à Harlem, qui, je crois, deviennent des quartiers branchés aujourd'hui? Alors, où est-ce qu'ils sont allés, tous ces gens?
Alors, ces gens, ils quittent de plus en plus l'hypercentre qui est devenu Manhattan au sens large. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a quand même pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, il y avait des quartiers à New York qui étaient des quartiers où on n'allait pas lorsqu'on était touriste, lorsqu'on était classe moyenne, même pas supérieure. Hein, des quartiers comme le Lower East Side qui sont maintenant intégralement gentrifiés et seules les enclaves les seules enclaves qui restent sont les enclaves qui correspondent à des logements sociaux de la ville de New York. Alors, ils n'ont pas tous été détruits, ces logements sociaux, au moment où Bob Moses, le tsar de New York, a rasé beaucoup de ces logements sociaux. Donc, il reste des endroits comme ça de pauvreté dans Manhattan. Pour le reste, c'est vrai que Manhattan est très largement une île de riches, et quasiment jusqu'à la 250e rue tout en haut. Et à l'inverse, on voit, et de la même manière, on voit les autres boroughs, Brooklyn, Queens petit à petit aussi, le Bronx, se gentrifier parce que les gens qui avaient des moyens réduits ont été obligés de quitter Manhattan à la recherche d'un logement meilleur marché.
Ça veut dire qu'il faut aller dans le nord de l'État plutôt pour trouver les zones les plus pauvres.
Alors il faut faire attention parce que si on va dans le nord de l'État, on va vers Upstate New York où il y a à nouveau des comtés très riches, par exemple le comté de Westchester où vivent la plupart de ces gens dont on parle de la haute société new-yorkaise.
Mais on peut dire que c'est quoi, une division nord-sud, est-ouest, ça marche un peu comme ça ou pas du tout,
Elizabeth Fondiment? Oui, quand même, parce que Westchester, ça reste quand même assez près de la ville de New York. Si vous allez dans le nord de l'État, près de Buffalo, etc., oui, là, je pense que vous trouvez les populations les plus pauvres de l'État. Après, dans New York même, si vous allez à Staten Island, par exemple, qui est le cinquième borough, dont on parle jamais, d'ailleurs, le grand oublié, parce que c'est une île au sud de Manhattan, c'est la petite classe moyenne new-yorkaise, les policiers, les fonctionnaires municipaux. Voilà, je pense que c'est un énorme problème. Je pense que c'est un énorme défi à relever pour New York, cette fuite organisée, plus ou moins organisée d'ailleurs, de populations qui n'ont plus les moyens d'habiter Manhattan, ça c'est certain, à part dans les logements sociaux comme le soulignait Pauline Perretz, mais certains quartiers du Queens, de Brooklyn, parce que si New York veut réussir à garder son statut de capitale artistique, de capitale culturelle, il va falloir qu'elle fasse très attention à ces populations-là.
Alors, en un mot, est-ce que justement la ville de New York essaye un peu d'avoir des politiques pour inciter une forme de diversité, par exemple des politiques qui pourraient ressembler à l'encadrement des loyers à
Paris ? C'est ce que Bill de Blasio essaie de faire. Il s'est fait élire en fait sur un programme dans lequel il disait qu'il allait mettre fin à ce qu'il a appelé « the tale of the two cities », donc le conte des deux villes. Là, il a repris un slogan, que beaucoup de
Dickens.
De Dickens, mais que beaucoup de politiciens ont réutilisé. Et il s'est dit qu'il allait représenter lui après Bloomberg, l'intérêt des plus pauvres de la ville. Ce qui est intéressant, c'est si on parlait de journalisme tout à l'heure, au moment de l'élection de Blasio, il y a eu dans le New York Times une formidable série qui a été écrite par une reporter du New York York Times, qui s'appelait The Invisible Child, et qui faisait, à partir du portrait d'une jeune adolescente qu'elle avait suivie pendant toute une année, elle faisait le portrait de cette pauvreté contemporaine de famille qui passait de shelter en shelter, et c'était une manière de dénoncer en fait le démantèlement de la politique sociale et d'aide aux homeless que Bloomberg avait opéré. Et donc de Blasio disait, moi je cesse ça et je vais essayer de mettre un terme à cette négligence des pauvres.
Vous nous avez parlé tout à l'heure d'Elisabeth Frank Dumas, Diane von Fürstenberg, que nous allons entendre justement dans une archive de l'émission Ville Monde sur France Culture en septembre 2011. Elle nous parle de New York et de sa représentation du pouvoir.
Je pense que New York est une ville... C'est un peu comme Venise sous les Doges. C'est une ville où les gens viennent vendre. Les artistes, les peintres, les cinéastes, tout le monde veut montrer à New York, c'est important. Alors c'est une ville de représentation, c'est une ville, c'est ça ce qu'on fait, les sorties, c'est toujours pour aider un ami qui a un livre, un ami qui a un peintre, etc. C'est pas une ville bourgeoise. C'est pas une ville bourgeoise.
Alors c'est amusant d'entendre Diane de Fürstenberg qui, elle, est je crois 75e femme la plus puissante du monde, nous dire que New York n'est pas une ville bourgeoise. Elisabeth Frank Dumas, la raison pour laquelle on voulait vous faire entendre cette archive, c'est la question de la projection qu'on peut avoir de l'idée de pouvoir sur New York, et notamment dans le cinéma et dans les séries. Pourquoi, à votre avis, historiquement, le cinéma s'est tellement intéressé à New York comme ville du pouvoir, justement ?
Parce que c'est le cas. Parce que c'est une ville de pouvoir, donc voilà.
Plus qu'ailleurs aux États-Unis.
Oui, très certainement plus qu'ailleurs aux États-Unis. Ensuite, je pense qu'énormément des gens qui écrivaient ces scénarios ou ces séries, avant de partir, avant de s'expatrier à Hollywood pour aller les réaliser, tous ces projets, très souvent, ils commençaient par les écrire à New York. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse population d'écrivains new-yorkais, de scénaristes new-yorkais, de gens qui travaillent sur des séries, voire des shows télévisés d'animation, de comédie, etc., qui sont new-yorkais et puis qui sont importés par Los Angeles, qui y vont quelques années, qui souffrent parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop superficiel, disent-ils, et puis qui finissent par retourner à New York.
Je pense aussi que, cette fascination pour le pouvoir new-yorkais, elle tient aussi aux personnalités de ces gens qui symbolisent ce pouvoir. Hein. Dans toutes les histoires, il y a des itinéraires d'ascension fulgurante, des effets d'émulation. Je pense par exemple au film Wall Street d'Oliver Stone, où on voit le jeune Martin Sheen qui rêve de devenir le protégé de ce personnage assez fascinant qui est Gecko. Enfin, il y a des personnalités qui marquent. Qui donnent des ressorts dramatiques formidables. Enfin, des histoires d'ascension et de chute très, très brutales et très puissantes. Enfin, et qui bien sûr, font à la fois rêver, trembler, etc. Mais en littérature aussi, il y a cette fascination. Je pensais, par exemple, à la façon dont Don DeLillo avait cherché à parler de ce qu'il appelle les titans de la finance dans le livre Outre-Monde. Enfin, voilà. Ce sont des passages qui donnent matière à des descriptions de bâtiments, de personnages hors du commun.
Et Tom Wolfe, et Henry James, et l'historien Robert Caro, vous parliez de Robert Moses tout à l'heure, le meilleur livre jamais écrit sur l'histoire de New York et le pouvoir à New York. C'est un livre, je ne sais pas s'il a été traduit d'ailleurs, qui s'appelle The Power Broker, qui est sur la figure de Robert Moses. C'est-à-dire qu'on les compte plus, les livres, les films, tout le monde marche dans le mythe. Voilà, tout le monde a envie de parler de ça.
Mais on a l'impression que New York était un peu une héroïne de cinéma et qu'elle est en train de devenir une héroïne de sitcom. Comment vous expliquez ça ?
Il y a une banalisation de l'argent et une érosion des contrastes, j'ai envie de dire. Hein. Lorsqu'on est à Manhattan, on a juste l'impression de se balader dans un immense espace propre, plein de boutiques rutilantes. Voilà, donc le fait que les contrastes sociaux aient quand même disparu, en tous les cas pour Manhattan, ça donne l'impression que finalement le rêve est à portée de la main de tous.
Elisabeth Frank Dumas.
Oui, puis je crois aussi que ça c'est... ça participe aussi de l'ascension des séries qui sont vraiment devenues l'objet culturel le plus intéressant des 10 dernières années, qui elles-mêmes influencent en retour le cinéma. Et bon, Les Sopranos, c'était dans le New Jersey, mais il y a eu Friends, il y a eu Girls, Mad Men. Voilà, et ça, je pense que ça participe plus du mouvement qualitatif des séries.
Alors, toutes ces séries, tous ces films, finalement, c'est la dernière question qu'on voulait vous poser dans cette émission. Est-ce qu'elles ne dépeignent pas un pouvoir de New York à tous les niveaux ? On en a abordé un certain nombre de facettes, qui est finalement exagéré, supérieur à la réalité. D'une certaine manière, on a le sentiment que New York, c'est la capitale du XXe siècle aux États-Unis, mais est-ce qu'au XXIe siècle, ça reste le pôle d'attraction incontesté des États-Unis ? Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres villes, Chicago, peut-être San Francisco, qui sont en train de dépasser New York au XXIe siècle ?
Envie de sortir du continent américain et de dire que les choses se passent ailleurs maintenant. Enfin, démographiquement, assurément, même si beaucoup d'immigrants continuent à arriver aux États-Unis. Mais la démographie se porte ailleurs. Les plus hauts immeubles du monde maintenant sont construits ailleurs. Le pouvoir économique aussi va vers l'Asie. Va vers des capitales d'Amérique latine. Donc New York est encore reine pour quelques années, on ne sait pas combien de temps, mais je pense que voilà, ce sont les dernières.
Oui, je suis d'accord avec Pauline Perretz. Je pense que c'est la reine des États-Unis et ça, c'est incontestable et incontesté. Mais en revanche, je crois qu'aujourd'hui, oui, ça se passe en Asie, ça se passe en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, et que là, pour le coup, la ville-monde, le statut est un petit peu dépassé.
Malgré le passage du pouvoir dans l'Ouest américain, on dit que le pouvoir est en train de se déplacer de la côte Est à la côte Ouest, plutôt vers la Californie. Ça n'a pas d'impact sur New York ?
Si, on le dit beaucoup. J'ai trouvé ça assez amusant de voir, je crois que c'était l'été dernier, David Geffen, qui est un producteur de disques vraiment extrêmement identifié, Californie, il habite Los Angeles, toute cette mouvance, a fait un don d'une centaine de millions de dollars au Lincoln Center. Et la manière dont c'était expliqué dans l'article, c'est on n'est pas un mécène tant qu'on n'a pas donné, un vrai mécène tant qu'on n'a pas donné à New York. Et je crois que New York a tellement habilement mis en scène son propre pouvoir, que ça, c'est, je pense que le challenge n'est pas encore advenu.
Et en même temps, Pauline Perretz, est-ce que vous diriez que le 11 septembre 2001, ça a été à la fois le sommet de New York ville cible, ville de pouvoir, et en même temps peut-être le début de la fin ?
Oui, le début de la fin, symboliquement très fort, avec ces deux tours qui tombent, mais en même temps, tout le pays a été uni, et tout le monde a été uni derrière le pays à ce moment-là, donc je dirais que moi, je vois pas ce moment-là comme le début de la fin, au contraire, c'est un peu le dernier sursaut, avant la fin, qui arrive pour des raisons qui sont plus qui sont globales, quoi, des raisons qui sont économiques et démographiques, et c'est juste que, voilà, le cœur ne bat plus, le cœur du monde ne boit plus en Occident.
En tout cas, c'est évidemment un symbole, les deux tours, la fin d'un siècle. Merci beaucoup Elisabeth Franck-Dumas, merci Pauline Perretz pour cette exploration des arcanes du pouvoir new-yorkais. Et avant de nous quitter, Vincent, comme chaque semaine, vous avez quelques conseils de lecture et de films à nous donner.
Oui, tout à fait. D'abord, recommander le livre de notre invitée, Pauline Perretz, qui a dirigé New York, Histoire, Promenade, Anthologie et Dictionnaire, à la collection Bouquins chez Robert Laffont, une véritable somme. Vous disiez tout à l'heure 3 millions de signes, une plongée dans le New York mythique qui a su attirer à travers son histoire des migrants provinciaux, des Américains de toute classe sociale. Le livre nous parle des grands mythes, des grands lieux, des histoires les plus méconnues de la ville phare américaine qui sont ici racontées à travers l'histoire, la politique, la littérature, le cinéma, jusqu'aux avant-gardes artistiques, donc un livre tout à fait incontournable. Et puis, il y en a un deuxième, c'est le livre du grand historien des États-Unis, François Veil, Histoire de New York, qui est paru en 2004, sans lequel il est impossible de parler de New York, cette histoire de New York qui nous emmène aux origines de cette mégalopole que nous connaissons aujourd'hui. Notamment, il répond à la question de savoir comment des événements comme la construction du pont de Brooklyn, l'unification des Five Boroughs, ces fameux arrondissements de New York dont nous parlions, surtout l'arrivée, le mélange progressif de tous ces millions de migrants de toutes origines ont contribué en quelques siècles à forger la personnalité si étonnante de cette ville. On citera également le livre American Dream de la journaliste du Monde Guillemette Faure, un dictionnaire historique rock et politique de l'Amérique dont l'édition Poche vient de sortir chez Point Seuil. Pour les lecteurs anglophones, puisque le livre n'est pas encore traduit en français, signalons aussi Celluloid Skyline de James Sanders, qui essaie de répondre à la question de pourquoi les cinéastes s'étaient intéressés à New York. Et bien lui nous dit que c'est parce qu'ils avaient tellement la nostalgie de New York quand ils sont partis à Los Angeles qu'ils l'ont sublimé finalement dans leur film. Et puis enfin, Week-end américain de France Culture oblige, Un dernier conseil, c'est un coffret DVD consacré aux années Obama, les années Obama 2009-2016 de Norman Percy. Paul Mitchell et le grand documentariste Brian Lapping, coproduit par Arte, BBC et Brooke Lapping Productions, dont la trame suit une question simple. Le bilan du premier président noir des USA est-il à la hauteur de l'enthousiasme suscité par son élection? Et entre quatre films, on essaye de répondre à cette question de façon chronologique. Voilà toute une somme tout à fait importante si on veut se rappeler de ces 8 ans qu'a occupé Barack Obama à la présidence des États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui.
Sur ces notes de Jay-Z et Alicia Keys que nous terminons cette émission Empire State of Mind, une émission de Vincent Martini et Ariane Chemin, préparée par Antoine Duchler, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la technique Bernard Laniel. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter @AtelierPouvoir, ainsi que sur franceculture.fr. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un nouvel Atelier du Pouvoir où nous parlerons, cher Vincent, d'un concept redevenu très à la mode.
Eh oui, c'est celui de l'union des droites ressuscité par ceux qui rêvent de la fusion entre les droites classiques et le FN.
Dans un instant, c'est la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau qui reçoit aujourd'hui Caroline Roland-Diamond, historienne des mouvements afro-américains contre la ségrégation. Et donc, bon week-end new-yorkais sur France Culture.